VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 21 juin 2022. En direct de Washington, Idrissa Sédoudia. Pour commencer les titres, au Mali, plus de 130 civils tués par des djihadistes présumés dans le centre du pays. Le bilan serait plus lourd. Au Burkina Faso, le dernier corps sans vie d'un des 8 mineurs disparus sous terre a été retrouvé après plus de 2 mois. En Guinée-Bissau, déploiement d'une force de stabilisation de la CDAO. Et au Kenya, les dirigeants d'Afrique de l'Est s'accordent sur la mise en place d'une force régionale pour la RDC. Les États-Unis et le Maroc, pays hôte, lancent African Lion 2022, le plus large exercice militaire en Afrique. La Chine offre sa médiation pour les différends dans la corne de l'Afrique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, le bilan de plusieurs attaques ce week-end est très lourd. Le gouvernement de la transition parle de 132 morts, mais des sources concordantes ont dit à VOA Afrique qu'il y aurait au moins 190 personnes tuées lors de ces attaques qui ont visé des villages dans la région de Bandiagara, dans le centre du pays. De Koro, notre correspondant Tidiane Ouedraogo.
Ces attaques ont visé samedi les villages de Djalassagou, Djangweli et Densagou dans les cercles de Bankas. Selon des témoins, des assaillants lourdement armés ont ouvert les feux sur des populations civiles, brûlé des magasins, des boutiques de commerce et des bâtiments publics. Selon toujours des témoins, des civils ont été froidement exécutés sur place et un nombre important pris en otage par des assaillants. Dans son communiqué lundi soir, le gouvernement de la transition parle d'attaques terroristes lasses et barbares. Il annonce un bilan de 132 civils froidement tués, selon ses termes par des hommes de la Katiba du Massina. Des sources concordantes, ce bilan serait beaucoup plus lourd. Dans la région ici, des témoins parlent de 197 morts, un chiffre qui pourrait évoluer. Plusieurs personnes ont été enlevées. De nombreux blessés arrivés au centre de santé de Bankas, d'autres évacués vers Mopti. Toujours dans le centre du Mali, ce lundi, une délégation du gouvernement s'est rendue sur les lieux de drame pour présenter ses condoléances et rassurer les populations. L'armée malienne y a déployé des renforts. Plusieurs centaines de personnes fuyant l'insécurité dans leur localité sont arrivées à Bankas. Lundi soir, des déplacés continuent d'affluer. Tidiane Ouedraogo, Koro pour VOA Afrique.
Au Burkina Faso voisin, le dernier corps sans vie d'un des 8 mineurs coincés sous terre depuis le 16 avril dans la mine de zinc de Perkoa a été retrouvé lundi après plus de 2 mois de recherche. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement. Les dirigeants d'Afrique de l'Est se sont accordés lors d'un sommet hier sur la mise en place d'une force régionale pour mettre fin au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo, Jacques Aristide.
La réunion à Nairobi des 7 membres de la communauté d'Afrique de l'Est a été consacrée à la situation sécuritaire dans l'Est de la RD Congo. D'après la présidence kényane, les chefs d'État veulent que la force régionale tente de stabiliser et d'assurer la paix en RDC en coopération avec l'armée et les forces administratives congolaises. Il n'est pas clair toutefois si le Rwanda va participer à cette force, ce que rejetait Kinshasa peu avant l'ouverture du sommet. Les dirigeants demandent également qu'un cessez-le-feu immédiat soit appliqué et que la cessation des hostilités débute immédiatement. Les tensions ont redoublé ces dernières semaines entre la RDC et le Rwanda avec la résurgence de la rébellion du M23. Kinshasa accuse Kigali de soutenir ces rebelles, ce que Kigali dément. Outre le président kényan Uhuru Kenyatta, on prépare à la réunion le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, son homologue rwandais Paul Kagame, de même que les dirigeants du Burundi, du Soudan du Sud, de l'Ouganda et de l'ambassadeur de la Tanzanie à Nairobi.
Ajoutons que la présidence de la RDC a écrit hier soir sur Twitter, je cite, « Placée sous commandement militaire du Kenya, cette force devait être opérationnelle dans les prochaines semaines et ne devrait pas comprendre en son sein d'éléments de l'armée rwandaise. Fin de citation. Pour sa part, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a commencé hier à déployer une force pour appuyer la stabilisation de la Guinée-Bissau, dont le président a échappé en février à une tentative de coup d'État. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La mission d'appui à la stabilisation de la Guinée-Bissau est composée de 600 hommes venus du Nigeria, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Ghana, selon la CEDEAO. Elle couvrira l'ensemble du pays, a déclaré le chef militaire de la mission, Mohamed Al-Hassan. Le général Francis Béanzin, commissaire de la CEDEAO pour les affaires politiques, la paix et la sécurité, a ajouté que la durée de la mission est d'un an renouvelable. Le 1er février de cette année, le président Oumarou Sissoko Ambalo a échappé à une tentative de putsch qui a fait 11 morts. Par la suite, il a dissous le Parlement, devenu selon lui un espace de guérilla politique et de complot. Il a fixé la date des législatives au 18 décembre. La CEDEAO avait déjà déployé une force en Guinée-Bissau après le coup d'État d'avril 2012 qui avait renversé le premier ministre Carlos Gomes Jr. entre les deux tours de la présidentielle. Formée de plus de 1000 soldats, gendarmes et policiers, elle avait quitté le pays en septembre 2020 à la fin de son mandat.
Les États-Unis et le Maroc ont lancé hier à Agadir, dans le sud marocain, l'exercice militaire African Lion 2022. Le plus large sur le continent africain, plus de 7500 soldats vont participer jusqu'au 30 juin. Le point avec Abdourahmane Dia.
Ces manœuvres mobilisent des militaires originaires de 10 nations, dont le Brésil, le Tchad, la France et le Royaume-Uni, des observateurs militaires de l'OTAN et d'une quinzaine de pays partenaires, dont, pour la première fois, Israël, y prennent part également. African Lion a pour objectif de renforcer nos capacités communes de défense pour contrer les menaces transnationales et les organisations extrémistes violentes, a précisé un communiqué d'Africom. Ces manœuvres terrestres, aéroportées, aériennes, maritimes et de décontamination nucléaire, radiologique, biologique et chimique auront lieu à Kenitra, près de Rabat, et dans plusieurs régions du sud, parfois proches de la frontière algérienne. L'Algérie a rompu ses relations avec le Maroc en août 2021, accusant Rabat d'actes hostiles et dénonçant sa coopération militaire et sécuritaire avec Israël.
La Chine a offert lundi sa médiation pour le règlement des différends dans la Corne de l'Afrique à l'ouverture d'une conférence avec les pays de cette région en proie au conflit et où elle a de nombreux intérêts, Nanit Talani.
La première conférence Chine-Corne de l'Afrique sur la sécurité, la gouvernance et le développement, réunie jusqu'à ce mardi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, la Chine, représentée par son émissaire spécial Zhu Bing, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et l'Ouganda, représentée par un ministre ou un ambassadeur. L'Érythrée, invitée, n'était pas présente. L'émissaire chinois a déclaré, je cite, « Nous avons appris de l'histoire que la Corne de l'Afrique ne doit devenir l'arrière-cour de qu'un pays », ajoutant que beaucoup avaient souffert de la domination coloniale et que les confrontations de la guerre froide avaient amené sur le continent les brûlures de la guerre. La Chine possède à Djibouti un port et son unique base militaire en Afrique, propre à sécuriser ses énormes intérêts économiques, dont les transports, l'industrie, l'énergie, dans la région.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Moscou a soutenu lundi que la hausse des prix des céréales était la faute des régimes occidentaux qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs, selon la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova. Pour sa part, le président ukrainien, dans un discours en vidéoconférence aux membres de l'Union africaine, a lui déploré que l'Afrique soit l'otage de ceux qui ont commencé la guerre et a indiqué que des négociations difficiles étaient en cours pour débloquer les ports ukrainiens sans progrès pour l'instant. Sur le terrain, l'Ukraine a accusé lundi la Russie d'intensifier encore ses bombardements meurtriers dans l'Est, où ses troupes résistent avec acharnement. Selon Moscou, Kiev a frappé en retour des plateformes en forage en mer Noire au large de la Crimée annexée en 2014. La Minute Écho, Mohamedou Houfa.
La Russie a soutenu lundi que la hausse du prix des céréales est le résultat des actions destructrices de l'Occident et non du blocage par Moscou des exportations d'Ukraine. Concernant la possibilité d'une famine, de plus en plus d'experts penchent vers un scénario pessimiste et c'est la faute des régimes occidentaux qui agissent comme des provocateurs et des destructeurs, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova sur Telegram. Moscou a été accusé hier par le président ukrainien de bloquer ses exportations de céréales. L'accès à l'énergie en Afrique a encore reculé depuis le Covid-19, a relevé lundi l'Agence internationale de l'énergie. En Afrique, 600 millions de personnes vivent sans électricité, avec 25 millions de personnes de plus sans courant, a détaillé l'AIE. Mais selon l'agence, la transition mondiale vers les énergies vertes est porteuse de promesses, notamment pour le continent africain qui dispose de 60% des ressources solaires mondiales. L'Algérie devrait bientôt entrer dans le capital de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Par deux décrets parus les 8 et 14 juin, le président Abdelmadjid Tebboune a autorisé cette adhésion. Selon Jeune Afrique, Alger devrait débourser autour de 2 millions de dollars pour sa prise de participation.
Merci Mohamedou. À présent, les sports avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Football avec les éliminatoires de la CAN des moins de 17 ans, les demi-finales du tournoi UFOAB se jouent ce mardi.
Oui, le Burkina Faso affronte le pays organisateur, le Ghana. Malgré leur défaite, les Ivoiriens finissent deuxième du groupe B et joueront la redoutable équipe du Nigeria. Les deux vainqueurs de cette demi-finale se qualifieront pour la phase finale de cette CAN prévue l'an prochain en Algérie.
Samuel Eto'o plaide coupable de fraude fiscale en Espagne.
L'ex-footballeur camerounais a conclu un accord avec le parquet espagnol qui le poursuivait pour fraude fiscale afin d'éviter d'aller en prison. L'annonce est faite par un tribunal de Barcelone. Selon les termes de cet accord, Samuel Eto'o, fils, a été condamné à une amende et à une peine de 22 mois de prison, mais ne sera pas incarcéré. Le montant de l'amende s'élève à environ 1,8 million d'euros selon la presse espagnole. Samuel Eto'o et José María Mesales, son ex-représentant qui a été condamné pour sa part à 12 mois de prison et à une amende, devront aussi rembourser au fisc espagnol la somme fraudée, soit près de 3,9 millions d'euros. Le parquet poursuivait l'ancienne star du football africain, devenu fin 2021 président de la Fédération camerounaise, pour 4 délits contre le fisc remontant aux années 2006-2009.
Des nouvelles du marché des transferts.
Le défenseur international marocain Naïef Aguerd, 26 ans, s'est engagé pour 5 ans avec West Ham dans le cadre d'un transfert estimé à environ 35 millions d'euros, prime comprise. L'annonce est faite par le club anglais de Premier League. Naïef Aguerd jouait depuis 2 saisons à Rennes, qu'il avait acheté à Dijon pour 5 millions d'euros. Et puis, l'éventualité du retour de l'attaquant belge de Chelsea, Romelu Lukaku, à l'Inter de Milan est une piste faisable, mais il y a encore des difficultés, affirme Giuseppe Marotta, administrateur délégué du club Nerazzurro. Selon la presse italienne, Chelsea pourrait accepter de laisser son joueur à l'Inter la saison prochaine sous la forme d'un prêt payant de 10 millions d'euros hors bonus.
Tennis, Jabeur, comblé de jouer en double avec Serena Williams à Istanbul.
La Tunisienne qui jouera cette semaine en double avec l'Américaine Serena Williams au tournoi d'Istanbul trépigne d'impatience pour un rendez-vous avec l'ex-reine mondiale du tennis qu'elle qualifie d'incroyable. Afin de préparer Wimbledon, son tournoi fétiche qu'elle a remporté cette fois, Serena Williams a décidé de disputer le double femme à Istanbul. Associée à Ons Jabeur, elle doit rencontrer ce mardi le duo formé de Sara Sorib et Marie Boutkova. « Je sais garder les secrets, j'étais au courant depuis Roland-Garros », a confié la Tunisienne qui dit n'avoir pas hésité une seule seconde avant d'accepter. Elle a été une telle source d'inspiration que lorsque j'ai su que nous allions jouer ensemble en double, cela a été une nouvelle énorme et incroyable, raconte Ons Jabeur.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoulia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. L'association Isoko USA, une organisation regroupant des membres de la communauté Banyamulenge aux États-Unis, attire l'attention de l'administration Biden sur la crise sécuritaire actuelle dans l'est de la RDC, notamment sur le discours de haine qui, dit-elle, appelle au meurtre de la communauté des Tutsis congolais. Pour en parler, Eric Manirakiza a joint le secrétaire de cette organisation, Safari Munya Rugendo.
Nous avons, nous comme Isoko USA, nous sommes une organisation qui est affiliée à l'organisation Isoko de Congo, basée au Nord Kivu, à Goma. Et nous avons écrit au président Biden, c'était un relais du cri d'alarme que le président de Isoko Nord Kivu, M. David Karambi, avait lancé au président Tshisekedi et à toutes les autorités politico-administratives du Nord Kivu, et à laquelle il demandait que la communauté Tutsi, les personnes parlant Kinyarwanda, soient protégées parce que les discours de haine étaient tellement enracinés, publiés à travers les réseaux sociaux. Donc c'était un relais, et nous comme citoyens américains, ayant des origines congolaises, nous avons été implantés dans ce pays, protégés par les États-Unis parce que le Congo avait eu le même problème en 1998. Ainsi, nous avons voulu relayer le message du président de Isoko Nord Kivu aux autorités américaines ainsi qu'aux différentes institutions internationales. Et nécessairement, de là, le Congo pourrait aussi sentir qu'il y a quand même une menace.
Est-ce que vous estimez que le gouvernement congolais ne fait pas assez pour protéger cette communauté? Nous avons quand même entendu le président Tshisekedi, à travers ses collaborateurs, dire qu'ils vont sévir contre le discours de haine.
Encore une fois, c'est après la casse, après les dégâts constatés lors de la manifestation du 14 juin dernier, que les discours du président et de ses collaborateurs sont venus bien après. J'ai suivi le discours du vice-premier ministre Daniel Asselo, qui recommandait de punir tous ceux qui publient le discours de haine et de xénophobie contre une certaine catégorie de population congolaise. Mais je demanderai au vice-premier ministre d'aller plus loin parce que le commissaire provincial du Nord Kivu, de la police du Nord Kivu, M. le colonel Van, il a, lors des meetings populaires, demandé que les gens prennent la machette et les gens ont pris la machette. Et jusque-là, les discours n'est resté que théoriques. Je demanderai donc au vice-premier ministre Daniel Asselo de pouvoir prendre les mesures contre ce général qui a demandé en plein meeting de la police que les gens prennent les armes et les armes. Mais la tradition ont été prises, les maisons ont été attaquées, les personnes physiques attaquées. Donc, en sanctionnant déjà cette personne qui a incité la population à la haine et les autres à toucher à ça, là, ça montrait que le gouvernement congolais a pris la mesure de sanctionner et de mettre fin à la chasse à l'homme contre une population congolaise installée qui fait partie de sa couche. Donc, jusque-là, rien n'a été fait. Donc, le discours est venu peu après. Et notre lettre au président Biden, ainsi que au Sénat, pour qu'il prenne une certaine mesure et une pression sur le président congolais et son gouvernement.
Safari Munya Rugendo, secrétaire de l'association Isoko USA, une organisation regroupant des membres de la communauté Banyamulenge ici aux États-Unis. RDC toujours, le chef du parquet fédéral belge a remis hier à Bruxelles à la famille de Patrice Lumumba un coffret contenant une dent du héros congolais assassiné en 1961. La dent de Patrice Lumumba, ayant valeur de relique, doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de l'ex-premier ministre. Eddie Sango a joint à Bruxelles le petit-fils de Patrice Lumumba, Jean-Jacques Lumumba.
C'est un moment assez historique. C'est le début d'un grand éclairage, le début de plusieurs choses. 60 ans après, Lumumba peut enfin reposer en paix et chez lui, La famille a, après plusieurs années de combat, pu récupérer sa dépouille, donc les restes de son corps. Et ce sont des moments remplis d'émotions pour la famille, mais ce sont des moments aussi historiques pour le peuple congolais. Parce qu'enfin, le tout premier ministre qui incarne beaucoup de choses pour ce pays aura une sépulture.
Sans pour autant vouloir vous offenser, mais il y a des questions qui se posent par rapport à cette relique. Est-ce que vous avez les sentiments c'est que c'est vraiment authentifié, c'est que le Belge remette à la famille?
Vous savez, ces restes du corps ont été saisis par la justice. Donc, bien évidemment, le fait que ça ait été saisi par la justice belge il y a cela plusieurs années, cela a pu être prouvé que ce sont les restes du corps de Patrice Lumumba. Mais néanmoins, c'est une polémique dans laquelle nous ne voulons pas rentrer. Le plus important pour la famille et surtout pour le peuple congolais, c'est déjà de faire le deuil parce que nous savons que le plus grand n'est pas encore fait, celui de rendre justice à cet homme au-delà des excuses que la Belgique a prononcées aujourd'hui. Mais ce qui nous préoccupe le plus et ce qui préoccupera certainement le plus les générations à venir, c'est qu'à travers Lumumba et la personne de Lumumba qui est l'une des victimes les plus emblématiques de ce pays, qui connaissait des martyrs hier et qui continue à connaître des martyrs encore aujourd'hui, que la justice puisse être faite pour plusieurs Congolais qui le méritent. À travers Lumumba qui aura la sépulture, nous espérons que ce seront des millions et des millions de Congolais tombés sous les coups des armes pour la défense de la liberté et de notre liberté pourront aussi trouver non seulement la sépulture, mais justice sera faite pour que ces gens qui sont tombés en même temps que ses compagnons Polo et Okito puissent réellement reconnaître et bénéficier d'une justice surtout pour la mémoire.
Il a été dit lors de la visite du roi belge à Kinshasa qu'il fallait passer ou mettre un trait sur le passé, regarder de l'avant. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de la famille, par rapport à justement à cette justice que vous demandez?
C'est très facile de dire qu'il faut mettre un trait sur le passé et regarder vers l'avenir. Nous voulons bien regarder vers l'avenir et nous allons déjà regarder vers l'avenir. Mais nous ne pouvons pas oublier ce qui s'est passé et la justice mérite d'être faite. J'insiste surtout pour la mémoire de ce peuple. Le Congo vit depuis des années à travers son histoire un cycle infini d'impunité. Et nous ne pouvons pas comme ça tirer un trait sur le passé en disant que oui, il faut oublier le passé ne s'oublie pas. Aucune paix dans ce monde ne se construit sans justice parce que la justice élève une nation.
Il y a eu des tentatives de procès par le passé, mais on sait ça n'a jamais abouti. Mais qu'est-ce que vous attendez concrètement maintenant?
Même si ça n'a pas abouti, on ne va pas s'arrêter. Lumumba est mort, plusieurs autres personnes sont mortes après lui, mais cela fait en sorte que le combat ne peut que continuer. On ne peut pas s'arrêter parce qu'il y a eu un échec. On ne peut pas se refugier dans un certain fatalisme. Je crois qu'il y a lieu de continuer à espérer et continuer à se battre, même si ce n'est pas cette génération ou la génération d'après qui connaîtra cette justice, mais je pense qu'elle mérite d'être demandée et je crois qu'elle finira par être.
Jean-Jacques Lumumba, petit-fils de Patrice Lumumba.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi et sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
En Guinée, on attend toujours l'exécution du chronogramme de la transition depuis l'adoption d'une durée de 3 ans par le Conseil national de la transition, organe législatif. Au micro de notre correspondant Zakaria Camara, voyons ce qu'en disent les acteurs de la société civile guinéenne.
Le retour à l'ordre constitutionnel pourrait intervenir en Guinée au bout de 3 ans, selon le délai validé par le CNT. Mais des voix discordantes se font entendre pour réclamer un nouveau chronogramme issu du dialogue entre les acteurs sociopolitiques et la junte au pouvoir, Ibrahim Abalea Diallo, président du Forum civil guinéen.
Moi, j'ai le sentiment que cette transition, elle est bloquée. Parce qu'on n'a pas d'abord institué ce cadre de dialogue tant réclamé par les forces essentielles politiques et sociales. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une crise. Aujourd'hui, le blocage est là, il est réel. Et je crois que même les instances internationales ont noté cet état de fait.
Une partie de la classe politique accuse les autorités militaires de faire cavalier seul. Un avis que partage ce juriste pour une sortie de crise. Fayimba Mara conseille le respect de l'article 77 de la Charte de la Transition.
La Charte de la Transition, qui est la boussole de la gestion de la transition, qui dit dans son article 77 que le chronogramme de la transition doit être fixé de commun accord entre le CNRD et les forces vives de la nation. Alors aujourd'hui, depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours, depuis la mise en place des organes de la transition, on a vraiment constaté que cette disposition phare de la transition est en train d'être violée sur toute la ligne. On a l'impression que le CNRD est en train de faire cavalier seul et les acteurs majeurs de la transition composés par les forces vives de la nation sont laissés pour compte. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il y a une crise autour du chronogramme, autour du calendrier de la transition.
Une crise, mais qui peut vite trouver une solution si les Guinéens acceptaient d'accompagner la transition, soutient Abdourahmane Baldé, coordinateur national de Patriotisme en Action.
Pourquoi on ne déciderait pas de considérer la démocratie comme étant également la stabilité nécessaire à la refondation de l'État, à la lutte contre la corruption, pour que nous puissions assainir avant d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes et inclusives?
La Guinée sera de nouveau sur la table des chefs d'État de la CEDEAO à l'occasion d'un nouveau sommet prévu le 3 juillet prochain dans la capitale ghanéenne. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Les États-Unis ont commémoré ce lundi la Juneteenth, marquant la fin de l'esclavage. Même si c'est seulement l'an dernier qu'elle est devenue une fête nationale reconnue par le Congrès et promulguée par le président Joe Biden, elle est célébrée par les Africains-Américains depuis plus de 150 ans. Pour en savoir plus, Abdourahmane Dia a joint ici à Washington Marilyn Sefok, professeur à l'Université Howard.
Alors, Juneteenth commémore cette date où les Noirs américains, dans l'État de Texas, en particulier à Galveston, ont reçu la nouvelle en 1865 de leur émancipation. Alors, il s'agit là d'une fête qui est extrêmement importante pour les Noirs américains puisque ça représente la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Beaucoup de personnes nous disent maintenant que ce n'est que 2 ans après que les Noirs américains au Texas ont su qu'ils étaient libres. Ce n'est pas tout à fait vrai. En fait, ils avaient déjà la nouvelle, mais ça n'était pas mis en pratique, en fait. L'abolition de l'esclavage n'avait pas tout à fait été mise en pratique.
Est-ce que la mise en pratique a été facilitée justement par la fin de la guerre civile?
A été facilitée par la fin de la guerre civile, oui. Au bout du compte, enfin, l'armée pouvait justement s'assurer que c'était pratiqué, que l'abolition de l'esclavage était pratiquée.
C'est vrai que beaucoup d'États célèbrent la Juneteenth depuis des années, au Texas et depuis 1980. Pourquoi c'est seulement en 2021 que Juneteenth est devenue une fête nationale?
Alors, Juneteenth est devenue une fête nationale en grande partie grâce à Mme Opal Lee. Mme Opal Lee, c'est une grand-mère de 95 ans qui, depuis 6 ans, donc depuis qu'elle est à l'âge de 89 ans, a décidé de faire campagne pour que Juneteenth soit reconnu par au niveau fédéral, par le gouvernement fédéral. Donc elle a organisé une marche depuis Galveston, Texas, jusqu'à la Maison Blanche, jusqu'à Washington, pour que ce jour de 19 juin soit reconnu au niveau fédéral. Elle a réuni plus d'un million de signatures pour que justement ce Juneteenth soit reconnu par les autorités au niveau national.
Et il y a aussi eu les manifestations après la mort de George Floyd qui ont contribué, non?
Absolument. Après la mort de George Floyd, ça a galvanisé, sa mort, son assassinat par la police a galvanisé, si vous voulez, beaucoup de gens aux États-Unis, en particulier évidemment dans la communauté africaine-américaine, et les gens se sont mobiliser encore davantage pour le Juneteenth.
La professeure Marilyn Seyfort de Howard University. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde, Georges Léonard Sagnot, à la console, Kelvin Fowler. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.